Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour nous aujourd'hui l'occasion d'ouvrir ensemble la parole de Dieu pour partager le beau message de l'Évangile et, suivant notre habitude maintenant, d'introduire la méditation de l'Écriture sainte par un témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu, notre Seigneur, qui ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En ce dimanche ensoleillé de la mi-mai 1817, la famille Hiller était sortie pour une promenade dans la campagne environnant un petit village d'Allemagne où le père exerçait le métier de tisserand. Les hirondelles tournoyaient gaiement au-dessus des arbres en fleurs, se découpant sur le bleu du ciel dans la chaleur du jour, bruissantes du gazouillement de 1000 passereaux. Malgré la splendeur de ce printemps, André Hiller se désolait. Plus de vivres dans l'armoire. Dans le champ de pommes de terre près duquel ils étaient parvenus, les plants sortaient à peine de terre. Il faudrait bien du temps avant de pouvoir en tirer les précieux tubercules. Où prendrons-nous de quoi manger jusqu'à la moisson, soupira-t-il. Depuis plus d'un an, la famine sévissait avec son cortège de maladies mortelles. Le prix des vivres était devenu inabordable pour les plus pauvres et la disette frappait aussi les foyers modestes, tel celui du tisserand. Il avait beau travailler sans relâche, depuis l'aube jusqu'à une heure avancée de la nuit, l'alimentation coûtait si cher que l'argent qu'il gagnait ne suffisait pas à nourrir sa femme et ses trois enfants. Il avait donc dû emprunter 50 florins voici quelques mois, mais cette somme était maintenant épuisée, malgré le peu dont se contentait la famille. Les enfants, avec le solide appétit de leur âge, regardaient souvent dans la soupière pour voir s'il y restait encore quelque chose à manger. Que faire maintenant ? Un nouvel emprunt, pour lequel il faudrait payer ensuite beaucoup d'intérêts. Comment tout cela finira-t-il ? Écoute, André, lui répondit sa femme, dans les bons jours, il est facile de croire et de se confier en Dieu. Mais ce serait un péché de désespérer parce que les temps sont difficiles. Je m'en tiens à cette parole. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Le tisserand, pensif, se tut sur le chemin du retour. En rentrant chez lui, il s'assit devant la table et ouvrit sa grosse Bible au livre des psaumes. Il avait acheté cette Bible à la couverture de bois recouverte de peau noire et au fermoir en cuivre, 18 mois plus tôt, pour un prix modique chez un marchand de bric-à-brac de la ville voisine. Ses yeux s'arrêtèrent sur le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. » Il poursuivit sa lecture « Il restaure mon âme. » Puis il tourna la page et avec étonnement constata que ce n'était plus la suite de ce psaume mais un autre texte ne correspondant pas à ce qu'il venait de lire. Il s'aperçut alors que les deux pages étaient collées ensemble. Il prit un couteau et les détacha avec précaution. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver entre les deux feuillets un billet imprimé en une langue qu'il ne connaissait pas, portant en grand le chiffre 50 de chaque côté. Il courut aussitôt le montrer à son épouse, mais ni l'un ni l'autre ne savaient que penser de cette trouvaille. Le papier-monnaie était alors inconnu dans les campagnes, on ne se servait que de pièces. André Hiller décida donc de montrer ce billet à son patron pour tenter d'avoir des explications. D'où vient ce billet, maître André ? C'est un bon billet de banque anglais qui vaut 50 livres sterling, c'est-à-dire 150 florins de notre monnaie. Et le tisserand, stupéfait, raconta son histoire. Profondément touché, le négociant lui dit : André, c'est Dieu qui vous l'a envoyé. Tenez, voici 20 écus pour vos premiers besoins. Demain, je changerai le billet et vous pourrez venir chercher le reste. Il restait encore une chose à faire : informer le brocanteur de leur trouvaille et demander d'où provenait la Bible. C'est toute une histoire, dit le brocanteur. Elle appartenait à un bourgeois de notre ville qui fut enrôlé de force sur un vaisseau hollandais, puis servi dans la marine anglaise où il fut blessé. Il revint au pays et, touchant une assez bonne pension, comme il n'avait pas d'héritier, il paraît qu'il aurait voulu charger Dieu lui-même du soin de faire parvenir ses économies à qui bon lui semblerait. C'était maintenant chose faite. « Vous l'avez acheté sans savoir qu'elle contenait un trésor. Je n'y ai aucun droit, » ajouta le marchand. La famille Hilaire invita l'honnête commerçant à un petit repas de fête, où il fut heureux de partager leur joie, surtout qu'ils retrouvèrent d'autres billets entre des pages collées de la Bible. Le tisserand put non seulement rembourser son emprunt, mais tirer de la misère plusieurs de ses voisins pauvres. L'année suivante, il acheta une petite maison. Ils étaient désormais à l'abri du besoin. Son fils de 8 ans devint par la suite un excellent maître d'école qui aimait à raconter à ses élèves la merveilleuse délivrance dont ses parents avaient été l'objet. Oui, mes amis, combien la parole de Dieu est pour nous aussi aujourd'hui encore un précieux trésor. Et combien ceux qui prennent l'habitude de la lire, de la méditer, d'y croire et d'y obéir avec confiance pourront expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu, le trésor de la foi. Et nous ouvrirons ensemble la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc, maintenant au chapitre 19, à partir du verset 1er, ce récit qui nous parle de la bouleversante rencontre de Zachée avec le Seigneur Jésus. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ces moments que tu nous accordes encore devant ta parole, et nous le croyons dans ta bonne présence, parce que tu es celui qui suit ta parole, tu es celui qui la soutient, tu es celui qui la confirme pour ceux qui te font confiance. Et merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais encore en faveur de chacun de nous, par ton esprit, de manière à ce que nous puissions recevoir cette parole avec un cœur bien disposé, que cela puisse se poursuivre par le salut de nos âmes et par toute la bénédiction que tu veux répandre sur nos existences. Merci notre Dieu. Amen. Voilà, eh bien, lisons ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur. » Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Il y a des choses importantes dans la vie pour lesquelles il convient de s'arrêter parfois. Nous vivons dans une existence de course continuelle, non seulement de course physique, parce qu'il faut absolument arriver à boucler notre programme et notre emploi du temps, mais encore de course mentale. Et parfois, il faut savoir s'arrêter, ne serait-ce que pour réfléchir où on va, si on est dans la bonne voie, si on n'est pas en train de se tromper de route. Parce qu'alors, quand on s'en apercevra, ça risque d'être trop tard. Et c'est pour cela que parfois aussi, pour notre bien, Dieu nous arrête. Au temps des locomotives à vapeur, aux États-Unis, vous pouviez trouver, au milieu d'une série de voies de chemin de fer transcontinentales, une grande auge de métal. C'était une auge particulière puisqu'elle mesurait près de 400 mètres de long. On l'a gardé continuellement rempli d'eau. Ainsi, les trains, quand ils passaient, ne s'arrêtaient pas au réservoir pour renouveler leur provision d'eau. Et quand ils atteignaient l'endroit où se trouvait cette auge, le mécanicien appuyait sur un levier qui faisait descendre un tuyau au bas du réservoir. Et ce tuyau prenait l'eau pendant que le train continuait à foncer. Pas d'arrêt, pas de pause, simplement le train continue sur sa lancée pour prendre l'eau dont il a besoin. Et n'est-ce pas ainsi que beaucoup de gens agissent à l'égard des choses de Dieu ? Ils n'ont pas le temps de s'occuper des besoins de leur âme, ils sont trop occupés. Vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu, ni les délivrances du Seigneur, ni la lumière de sa vérité, ni ses directions divines pour votre vie en courant. Et c'est pourquoi ce soir, il est bon de s'arrêter. Non seulement de s'arrêter physiquement, en s'asseyant sur un siège, mais encore de s'arrêter mentalement. En ordonnant à notre esprit de cesser de vagabonder d'une façon effrénée et en nous fixant sur le glorieux message de la parfaite parole de Dieu, pour en retirer tout le bien que le Seigneur veut faire à notre corps, à notre âme, à notre esprit, à notre être entier. Et ce soir donc, nous parlerons de Zachée, nous verrons combien cet homme ressemble à chacun de nous et comment Jésus lui a parlé, avec les conséquences qui s'en sont suivies. Et nous aurons trois parties de notre message. Nous parlons tout d'abord de la position, de l'état de Zachée avant qu'il ne rencontre Jésus. Ensuite, nous parlerons de sa rencontre avec le Seigneur et de l'appel qu'il lui a adressé. Enfin, nous pourrons parler de la conversion de Zachée et de ses résultats. Tout d'abord, on nous dit la position, l'état de Zachée. Avant de rencontrer Jésus, il y a sept choses qui sont à noter en particulier. La première, c'est que Zachée était un habitant de Jéricho. Jéricho était une ville à l'histoire particulière. Elle avait été un lieu fertile et de nombreux habitants, jusqu'au moment où ceux-ci résistèrent à Dieu d'une façon particulièrement coupable. Et la malédiction tomba alors par la bouche de Josué. Maudit soit celui qui rebâtira cette ville, il en creusera les fondements au prix de son fils aîné et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Voilà quelles furent les paroles de Josué en ce temps-là. En même temps, les eaux étaient devenues amères et tous les habitants de bétail qui demeuraient dans le pays étaient frappés de stérilité. Et ce n'est que des siècles plus tard, lorsque vint le prophète Élisée, que cette malédiction fut ôtée, que les eaux de la ville redevinrent saines en même temps que disparaissait cette stérilité maligne, ceci donc par un miracle divin. Et combien cette ville de Jéricho est une image de notre monde? Quand Dieu a créé toute chose, c'était pour le bien. Par six fois, dans le récit de la création de la Genèse, par six fois Dieu dit « Et voici, cela était bon ». Et la septième fois, il ajoute « Et voici, cela était très bon ». Mais à cause du péché, de la désobéissance, la malédiction est entrée dans le monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean fait ce constat. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est quand Jésus, qui est plus grand que le prophète Élisée, est venu, que la malédiction a été enlevée pour ceux qui se confient en lui. Zachée donc est un habitant de Jéricho qui est pour nous une image du monde et nous aussi nous sommes dans ce monde qui est sous la malédiction tant qu'il n'est pas visité par Jésus. Deuxième chose que nous pouvons considérer, c'est que Zachée était un homme riche. On le voit au verset 2 et Jésus parle en plusieurs occasions de la difficulté qu'il y a pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ou plus exactement, il précise la difficulté de ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume des cieux. Et il est bon que Jésus donne cette précision. En fait, nous sommes tous comme Zachée. Nous sommes tous riches d'une manière ou d'une autre et nous confions par tendance en nos propres richesses. Certains sont riches financièrement, mais ont peut-être moins de richesses dans d'autres domaines. D'autres sont riches en temps libre, en loisirs. Certains jouissent d'une bonne santé, quelle richesse! D'autres ont par nature un caractère optimiste, un bon moral, quelle force! Il y en a certains qui ont une intelligence, une capacité d'acquérir des connaissances, et c'est aussi un privilège remarquable, enrichissant. Il y a ceux qui ont des occasions dans leur existence que d'autres n'ont pas, et qu'ils peuvent saisir. Il y en a qui ont le sens du contact, qui jouissent des avantages d'une bonne éducation, d'une famille unie, etc. Il y a tant et tant de manières d'être riche. Et dans notre vie, à un moment ou à un autre, nous sommes tous riches. Nous pouvons augmenter ou dilapider ces richesses. Mais ça, c'est une autre question. Et nous aurons aussi à en rendre compte à Dieu. C'est encore une autre question qui ne concerne pas directement notre sujet d'aujourd'hui. Mais le fait est que sur ce point-là encore, nous sommes semblables à Zachée, nous sommes riches. La troisième chose que nous pouvons noter, c'est que le nom de cet homme était Zachée. Dans l'ancien Israël, on ne donnait pas un nom n'importe comment, parce qu'il sonnait bien à l'oreille ou parce que c'était la mode du moment. mais se donnait un nom en espérant que le porteur de ce nom allait se souvenir du message contenu dans la signification du nom et s'y conformer. Zachée, c'est la forme grecque abrégée du nom juif Zacharie, qui veut dire « Dieu s'est souvenu ». Dieu se souvient, c'est vrai. Mais celui qui va porter ce nom, va-t-il se souvenir de Dieu ? Va-t-il prêter attention au Seigneur ? Va-t-il entrer dans le plan que Dieu a tracé pour sa vie afin d'accomplir la volonté divine, qui est bonne, agréable et parfaite ? Ou va-t-il en faire à sa tête en suivant son propre chemin et en faisant sa volonté à lui avant tout ? La suite du passage nous montre que Zachée était sorti du plan de Dieu et qu'il s'était égaré loin de la voie de la vraie bénédiction. Pendant longtemps, il en a été ainsi. Combien nous lui sommes semblables en ce point également ? En vérité, je crois qu'il y en a encore plusieurs parmi nous, auditeurs, qui sommes autour de cette parole, qui pourraient porter ce nom de Zachée au masculin ou au féminin. Dieu s'est souvenu, mais eux ne se sont pas souvenus de lui pendant si longtemps. Il avait un plan pour leur vie, mais eux ne se sont pas souciés de le connaître et de chercher quelle était sa parole pour eux. Comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 53 de son livre, « Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Quel grand dommage !» Il nous est rajouté une quatrième chose, c'est que Zachée était chef des publicains, c'est ce que nous voyons là au verset 2 encore. Ça veut dire qu'il avait une certaine réussite, mais une réussite entachée de péché, car les publicains étaient assimilés à de grands pécheurs. Et lui était un chef de publicains, un de ses premiers d'entre les pécheurs, dont nous parle par exemple l'apôtre Paul. Ainsi en est-il de beaucoup d'hommes dans le monde. Ils peuvent présenter une façade de richesse, de réussite, de respectabilité aux yeux de leur entourage. Mais en réalité, si on considérait ce qu'il y a derrière les apparences, quelle grandeur de péché on pourrait découvrir. Ah, les Zachées sont tellement plus nombreux qu'on ne le croit habituellement. Une cinquième chose que nous pouvons constater d'après le verset 3, c'est qu'il voulait voir Jésus, mais il était empêché par la foule. Parce qu'ils se pressaient tous autour de Jésus et personne ne se souciait de Zachée. Et si certains le reconnaissaient, ils l'auraient plutôt empêché de voir Jésus s'ils avaient connu ses intentions. Ça aurait été pour eux une trop belle occasion de se venger de ce collecteur de taxes malhonnête, de ce collaborateur au régime d'occupation romain. Il y en avait dans cette foule qui l'empêchait de voir Jésus. Et aujourd'hui de même, il y a des Zachées qui, dans le secret de leur cœur, voudraient voir Jésus. S'ils ne peuvent pas le voir de leurs yeux de chair, ils voudraient bien le voir répondre à leurs prières, à leurs besoins, à leurs aspirations. Mais il y a, là encore, des foules qui sont là pour les empêcher. Voici la foule de tant de religieux bien-pensants, hypocrites, formalistes, remplaçant la parole vivante de Dieu par des traditions mortes. Voici la foule des incrédules et des moqueurs, devant laquelle ils sont dans la crainte et ils n'osent pas faire part de leurs aspirations profondes. Et puis vous avez la foule des critiqueurs, la foule de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu et tant d'autres foules encore. Alors, plus que jamais, dans ce verset, eh bien, nous voyons que les choses sont d'actualité pour nous concerner également. Et puis une sixième chose que nous constatons également dans ce verset 3, c'est qu'il voulait voir Jésus, mais il était lui-même de petite taille. Non seulement les autres étaient un problème pour lui, mais il y avait un empêchement en lui-même, dans sa propre condition, dans sa propre nature. Il était de petite taille et il avait beau faire. À cause de cela, il ne pouvait pas y arriver. Et pour nous, il en est de même. Nous avons chacun des défauts. Et en particulier, un défaut majeur, un défaut principal. Et toutes ces choses sont là pour nous empêcher de voir Jésus. Certains peuvent être très grands par leur taille, mais ils ont une timidité maladive, et c'est un grand handicap pour eux. Ils n'arrivent pas à s'approcher de Christ. D'autres sont tellement compliqués, tellement incrédules. D'autres ont un si mauvais caractère qu'ils ne peuvent imaginer que de mauvaises intentions, même de la part du Dieu d'amour qui les appelle, se privant ainsi de la bénédiction jusqu'à aujourd'hui. D'autres encore sont orgueilleux, de si grande façon qu'ils ont bien du mal à réaliser Christ. L'Écriture nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux tant qu'ils restent dans cette disposition. Et c'est pourquoi les hachés sont tellement nombreux, aujourd'hui encore, et de ce point de vue-là. Et puis nous voyons une septième chose, d'après le verset 4, c'est qu'il était rempli de sentiments contradictoires, notre ami Zaché. Le figuier sycomore a de grandes feuilles qui dissimulent facilement ceux qui vont y chercher refuge. Zaché voulait voir, mais ne voulait pas qu'on le voie. Pensez donc, que vont dire les gens ? Monsieur le percepteur principal, perché dans un arbre comme un vulgaire gamin. Zaché était donc là, dans son arbre, et il pensait bien avoir trouvé la bonne solution pour arriver à son but. Ah, mes amis Zaché, qui êtes à l'écoute, comme vous êtes bien cachés dans votre figuier. L'homme n'a pas changé depuis la chute. Dans Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7, que nous ne lirons pas maintenant, mais il nous est dit que quand Adam et Ève péchèrent en mangeant le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Que firent-ils alors ? Il est écrit qu'ils prirent des feuilles de figuier, qu'ils cousurent pour s'en faire des ceintures, et ensuite ils se cachèrent, comme si on pouvait se cacher aux yeux de Dieu. Vous êtes bien cachés ce soir, pensez-vous ? Bien cachés dans cet auditoire ? Bien cachés derrière votre anonymat ? Bien cachés derrière les précautions que vous avez prises ? On ne me connaît pas dans le fond. Ce prédicateur ne peut rien me faire, il ne peut pas vraiment réussir à m'atteindre dans ma conscience et ma volonté. Et c'est vrai, vous êtes bien cachés, vous ne serez pas vus, et vous allez pouvoir voir, du moins l'espérez-vous comme Zaché. Mais voilà que les choses changent pour lui d'une façon inattendue, et c'est ce que nous voyons maintenant dans notre deuxième partie, qui nous parle, rappelons-le, de la rencontre avec Jésus et de l'appel qui lui a été adressé. Là aussi, nous pouvons noter cette chose. La première, très frappante au verset 5, c'est que Jésus va l'appeler par son nom. Et certainement, Zaché a été extrêmement étonné et surpris. Il pensait bien qu'il ne serait pas vu et le voici découvert. De plus, Jésus l'appelle par son nom, Zaché. Quelle révélation en même temps. Ça voulait dire qu'il le connaissait, qu'il savait qui il était, qu'il se préoccupait de lui. Et où s'arrêtait cette connaissance que Jésus avait de sa personne, de son état, de ses œuvres. Ainsi, Jésus s'adresse à ceux qui entendent son évangile et sont encore dans l'incertitude et dans la crainte. Dans Isaïe 43, verset 1er, nous lisons « Ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 3, « Il appelle par leur nom. » les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Jésus vous appelle donc, il vous connaît par votre nom. Il sait exactement qui vous êtes et où vous êtes, mieux que vous-même. Le psaume 139 nous rappelle cela à partir du verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Combien tout ceci est bouleversant. Et c'est pour cela, écoutez son appel qui s'adresse à vous ce soir. Que fait Jésus encore ? Le verset 5 nous dit qu'il l'appelle à descendre de son arbre. S'il n'y avait que ce passage dans la Bible, on pourrait croire que l'homme descend du singe. Mais quelqu'un a dit que ce serait faire une grande injure au singe que de lui attribuer une descendance semblable. En tout cas, il faut que Zaché descende de son arbre. Quel est cet arbre sur lequel tu te tiens ? Tant que tu seras dessus, Jésus ne pourra rien faire. Il nous faut descendre pour venir à lui. Et plus que cela, Jésus lui dit de se hâter. C'est ce qu'on voit aussi dans ce verset 5. Parce que Jésus n'a pas de temps à perdre, son œuvre se poursuit, elle l'appelle, il faut qu'il aille de l'avant, il y a d'autres choses à accomplir, d'autres personnes à rencontrer, le message annoncé à d'autres âmes encore. Et puis, c'est l'occasion. Jésus lui dit de se hâter parce que c'est l'occasion. Après, il s'en va. Y aura-t-il encore une autre occasion ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, certainement pas une aussi bonne. Et puis il est de se hâter aussi parce que si lui n'agit pas, le diable lui agit. Le diable agit toujours et il agira contre lui également. Et après, ben oui aussi, il aura de plus en plus de mal à prendre sa décision. Les circonstances seront plus difficiles que maintenant. Sa conscience moins bien disposée. Le moment d'aujourd'hui est le meilleur pour lui. Et c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il faut vous hâter de venir à Christ aujourd'hui même, ce soir et sans plus tarder. Votre cœur est bien disposé, il ne sera jamais plus aussi bien disposé. Les circonstances ne seront jamais meilleures que maintenant. L'occasion est excellente, c'est la meilleure également. Et le diable, sachons-le bien, essayera ensuite de mettre des barrages supplémentaires. Il faut donc venir se hâter de venir à lui. Et puis Jésus, lui aussi, lui fait part de cette grande nécessité. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. C'est une nécessité absolue qui surpasse tout autre. Et de même pour vous, il faut, pour que vous soyez sauvés, que vous veniez à Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il le faut à cause des ténèbres qui viennent de plus en plus sur le monde. Il le faut à cause de ceux qui vous entourent, dont plusieurs aussi pourraient être sauvés. Il le faut parce que votre bonheur éternel, votre bonheur à venir se joue, votre salut éternel se joue à ce niveau. Il le faut pour que Dieu soit également glorifié en vous. Et puis, considérez aussi une autre chose, c'est que Jésus ne veut pas seulement passer, mais qu'il veut demeurer. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, verset 5. Pourtant, dira-t-on, il va s'en aller. Oui, mais l'Esprit de Christ va demeurer. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, va être avec Zachée, va être en lui. Vous savez, il ne nous faut pas une piété qui est comme la rosée qui bientôt se dissipe, mais une foi vivante, durable, sur cette terre, dans l'éternité. Ce n'est que par ce moyen que nous serons sauvés. L'Épître aux Hébreux nous parle de ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent les promesses. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, notre Seigneur nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il veut demeurer dans nos vies, non seulement aujourd'hui, demain, mais jusque dans l'éternité. Et il veut malgré tout y demeurer dès aujourd'hui, puisque Jésus dit encore, remarquons bien, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et ceci nous parle de la possibilité pour Zachée et pour nous d'être sauvés dès aujourd'hui, dès maintenant, dès ces moments de prédication, d'être bénis aujourd'hui. Et c'est pour cela encore, ne remettons pas à demain, nous ne sommes pas maîtres du lendemain. Et puis, ce n'est pas Dieu qui dépend de nous. S'il nous adresse son appel aujourd'hui, nous l'adressera-t-il encore demain? C'est nous qui dépendons de lui. Ce n'est pas à Dieu de faire ce que nous voulons, c'est l'inverse. Dieu fait ce qui lui plaît, et c'est certainement pas lui qui va être à notre disposition. Et puis, Jésus précise encore qu'il veut demeurer dans sa maison. C'est quand Jésus est vraiment accueilli dans notre maison, qu'il y ait le maître dans toutes les pièces de la maison, dans tous les domaines de l'existence, qu'une conversion est juste et véritable, et dans tous les moments aussi de notre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, le Seigneur lance également son appel « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, alléluia. Je souperai avec lui et lui avec moi, amen. » Et voici enfin, pour conclure, la conversion de Zachée, ses résultats, ses preuves. Que voyons-nous chez lui? Une obéissance immédiate, au verset 6. Zachée fait exactement ce que Jésus lui demande. Et c'est une première preuve de vrai salut lorsqu'il y a cette obéissance immédiate et confiante. Et puis la joie, voici une évidence qu'une œuvre de Dieu s'est accomplie en lui. Cet homme est rempli de joie. Et il va être un moyen pour que la joie se répande autour de lui aussi. L'Écriture nous dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Voyez encore comment il se tient devant le Seigneur. Au verset 8, auparavant il était caché dans son arbre. Il ne venait surtout pas à être mis en évidence. Mais voyez le changement de position. voyez que maintenant, c'est sans crainte et c'est sans aucun désir de dissimulation qu'il se tient devant Dieu. Et puis, voyez également la manifestation de son amour pratique. C'est une autre preuve de salut. Lorsqu'on voit qu'il décide de consacrer une grande part de ses biens aux pauvres, et puis aussi, une cinquième chose, c'est la réparation des torts. Lorsqu'on reconnaît son tort, d'une part, et ensuite, qu'on a le désir de réparer autant que cela peut se faire. Voilà encore une autre preuve qu'une bonne œuvre, une œuvre céleste, s'est accomplie dans sa vie. Enfin, considérez que Jésus parle de sa foi, il dit qu'il est un fils d'Abraham, c'est-à-dire un fils spirituel d'Abraham, on le voit au verset 9. Ça veut dire que la foi qu'il manifeste est en fait de la même nature que celle d'Abraham. C'est en cela qu'il est un fils d'Abraham. Et puis, son salut est immédiat aussi. Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est confirmé dans ce verset 10 également. Mes amis, mes frères et sœurs, notre Sauveur béni est toujours le même. Il veut toujours accueillir le pécheur. Il le connaît par son nom mieux qu'il ne se connaît lui-même. Aucune de nos culpabilités, graves et nombreuses, n'est cachée devant lui. Et c'est vrai que sans lui, nous sommes perdus sans espoir. Mais il veut nous sauver, chacune et chacun. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit l'Écriture. Et il veut qu'il en soit ainsi pour vous. C'est pourquoi, au travers de son Évangile, par son Esprit, il vous appelle aujourd'hui à sortir de votre cachette, à descendre de votre arbre, à l'accueillir dans votre maison, et qu'il puisse rester, demeurer dans votre maison pour y accomplir toute l'œuvre du salut, et que vous puissiez ainsi aussi recevoir sa joie divine que nul ne pourra jamais vous ravir. Voulez-vous venir à lui? Voulez-vous le faire maintenant? Voulez-vous le faire d'un seul élan de tout votre cœur? Quel merveilleux salut, quelle grande bénédiction en seront la conséquence. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de ce que, à cet instant, dans ces moments, tu es celui qui visite et qui bénit ceux qui se tournent vers toi de tout leur cœur. Tu mets en eux cette même joie, cette même assurance que tu as mise dans le cœur de Zachée, Seigneur. Tu veux leur faire réaliser aussi une expérience bénie, Seigneur, et tu veux les aider aussi à prendre les positions et à suivre le bon chemin que tu désires pour eux et que tu prépares pour eux. Sois béni, Seigneur, pour l'œuvre du salut. Sois béni pour l'approbation divine que tu mets sur ces vies. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de ces moments. Simplement les annonces. Le culte de l'Église aura lieu dimanche à 9h45, Dieu voulant. Voilà, et pendant la durée du mois d'août, tous ceux qui veulent pourront y assister. Il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours, comme on l'avait indiqué il y a quelque temps, parce que nous étions un petit peu en train de tâtonner. Vous pouvez vous en venir tous ceux qui le désirent peuvent le faire, à condition malgré tout de s'inscrire auparavant pour qu'on puisse préparer l'accueil. Et merci de le faire autant que possible un peu en avance pour qu'on puisse bien se mettre en condition. Ceux qui veulent continuer à participer à la distribution de traités aux boîtes aux lettres à Châlons, donc à leur rythme, peuvent s'inscrire aussi auprès de moi. On leur donnera leur plan de travail et les invitations dès que ce sera possible. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a plusieurs jours d'activité, avec en particulier un programme pour les jeunes, qui sont programmés à Châlons du 11 au 13 août. Les renseignements, les inscriptions se feront auprès de Timothée Moreno et de Jean-Baptiste Tortarolo, et la réunion de prière est programmée à l'église pour le mercredi soir à 20h15. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie en lui, et à bientôt.